Yevgeny Onyegin, chapitre 2. Le village où s'ennuyait Onyegin était un charmant petit coin de terre. Un ami de jouissances paisibles aurait pu y bénir le ciel. Une maison de seigneur, isolée, protégée des vents par une colline, s'élevait sur le bord d'une petite rivière. Devant elle, s'étendaient et fleurissaient au loin des prairies diaprées et des champs de blé doré. Des villages s'apercevaient à l'horizon. Des troupeaux erraient dans la campagne, et un vaste jardin abandonné, refuge des mélancoliques dryades, étalait autour de la maison ses larges ombres. Cette respectable habitation était construite comme elle devait l'être toute, très solide et très commode pour une vie tranquille, dans le goût de nos sages grands-pères. Partout des appartements élevés, dans le salon des tapisseries de haute lisse, sur les murailles des portraits d'ancêtres et des cheminées en carreaux de faïence. Tout cela a passé de mode, et c'est à mon grand regret. Du reste, il est juste de dire qu'Onyegin était parfaitement indifférent. Il bâillait aussi bien dans les salons du vieux temps que dans les salons de l'élégance moderne. Il établit dans la chambre où son oncle campagnard enraciné avait passé 40 ans à se quereller avec sa ménagère, à regarder par la fenêtre et à tuer des mouches. Tout y était fort simple, un parquet en bois de chêne, de lourdes armoires, une table, un sofa couvert d'un édredon, nulle part la plus petite tache d'encre. Onyegin ouvrit les armoires. Il trouva dans l'une un cahier de dépenses, dans l'autre toute une rangée de bouteilles d'eau de vie de fruits, des cruches pleines d'eau de pommes et un calendrier de 1808. Le vieillard, ayant eu tant de choses à faire, n'avait jamais regardé dans un autre livre. Seul, au milieu de ses domaines, et ne sachant comment tuer le temps, Onyegin commença par avoir l'intention d'y établir un nouvel ordre de choses. Il remplaça par une légère redevance le lourd fardeau de l'antique corvée, et le paysan bénit son nouveau destin. Par contre, un propriétaire de ses voisins, homme pratique, se fâcha tout rouge dans son coin, trouvant à une telle innovation un immense dommage. Un autre se borna à sourire perfidement, et tous déclarèrent d'une commune voix que le nouveau venu était un original des plus dangereux. Tous pourtant vinrent lui rendre visite, et plus d'une fois, mais comme on lui amenait son étalon du Caucase au perron de la porte dérobée, dès qu'on entendait sur la grande route le bruit de leurs lourds carrosses construits à la maison, offensés d'une pareille façon d'agir, tous cessèrent toute relation avec lui. « Notre voisin, disait-il, est un malappris, un maniaque. C'est un franc-maçon. Il boit du vin rouge dans un grand verre. Il ne baisse pas la main des dames. Il dit toujours oui ou non. Jamais oui, monsieur, non, monsieur. » Telle était la voix générale sur son compte. À cette époque, un autre nouveau propriétaire était venu habiter le pays et se trouvait soumis à une critique non moins sévère. Il se nommait Vladimir Lenski. Avec une âme venue en droite ligne de l'université de Göttingen, c'était un beau jeune homme à la fleur de l'âge, disciple fervent de Kant et poète. De la Germanie nébuleuse, il avait rapporté ses fruits de la science, des rêveries amoureuses de la liberté, un esprit inflammable et bizarre, une conversation toujours enthousiaste et de longs cheveux noirs tombant sur ses épaules. N'ayant pas eu le temps de se corrompre au contact de la froide dépravation, son âme s'échauffait aisément à l'accueil d'un ami ou aux avances d'une jeune fille. Par le cœur, c'était un aimable ignorant. L'espérance le berçait encore. Tout nouvel éclat, toute nouvelle gloire séduisait encore sa jeune imagination. Les doutes qui pouvaient s'élever dans son cœur s'effaçait à la lueur d'une rêverie brillante. Le but de la vie lui paraissait une séduisante énigme. Il y appesantissait sa réflexion et soupçonnait là-dessous des merveilles. Il croyait qu'une âme parente était prédestinée à s'unir avec la sienne, que dans les angoisses de l'attente, elle l'appelait jour et nuit. Il croyait que ses amis étaient prêts à se charger de chaînes pour soutenir son honneur, que leurs mains ne trembleraient pas s'il fallait briser la coupe empoisonnée du calomniateur. Il croyait qu'il y a des êtres élus, des amis sacrés de l'humanité, et que le groupe de ces hommes, libre de toute passion, est appelé à nous éclairer des rayons irrésistibles d'une nouvelle doctrine à inonder le monde de félicité. L'indignation, la pitié, le pur amour du bien et le doux tourment du désir de la gloire avaient de bonne heure agité son sang. La lyre à la main, il errait dans le monde en fixant ses yeux sur le ciel de Schiller et de Goethe. Son âme s'était enflammée à leur feu poétique, et, heureux adepte, il n'avait pas fait honte aux leçons des nobles muses. Il avait su fièrement conserver dans ses chants les sentiments toujours élevés, les purs élans d'une imagination virginale et le charme d'une grave simplicité. Il chantait aussi l'amour, mais son chant était serein, limpide, comme les pensées d'une jeune fille naïve, comme le sommeil d'un enfant, comme la chaste lune quand elle traverse en silence le calme désert des cieux. Il chantait aussi l'absence et la tristesse, et le vague inconnu, et le lointain vaporeux, et les roses romantiques. Il chantait ces contrées où longtemps, sur le sein de la placidité s'étaient épanchées ses larmes vivantes. Il chantait la fleur fanée de sa vie, n'ayant pas encore 20 ans. Dans cette solitude où le seul Onieguine ne pouvait l'apprécier, il fuyait les festins des gentilshommes du voisinage. Il fuyait surtout leurs conversations aussi lourdes que sensées sur la récolte des foins, la fabrication de l'eau de vie, les chiens de chasse et les parents. Certes, elle ne brillait ni par le sentiment, ni par l'aspiration, ni par le piquant de l'esprit, ni par la science du savoir-vivre, mais la conversation de leurs aimables moitiés était encore bien moins attrayante. Riche et bien fait de sa personne, Lenski était reçu partout comme un fiancé. C'est la coutume à la campagne. Toutes les mamans destinaient leur fille à ce voisin demi-russe. Entre-t-il quelque part, on se met aussitôt à faire allusion aux ennuis de la vie de célibataire. Puis on invite le voisin à s'approcher du samovar, et c'est Dounia qui verse le thé. On lui murmure à l'oreille, « Dounia, fais bien attention !» Puis on apporte la guitare, et voilà Dounia qui se met à piailler, « Oh, juste Dieu !» à piailler la romance. Viens à moi dans mon palais doré. Mais n'ayant aucun désir d'entrer sous le joug du mariage, Lenski préféra se rapprocher d'Onéguine. Ils se rapprochèrent en effet. L'eau et le rocher, les vers et la prose, la glace et le feu sont moins différents. Au commencement, ils se fatiguèrent l'un l'autre par leur diversité. Puis ils se plurent par cela même qu'ils différaient. Puis ils se virent tous les jours et devinrent bientôt inséparables. Hélas, oh, j'en fais l'aveu tout le premier, c'est par oisiveté que les hommes deviennent amis. Mais non, cette amitié même n'existe plus parmi les hommes. Ayant secoué cette dernière superstition, nous nous considérons seuls comme des unités et tenons le reste du monde pour des zéros. Tous nous nous haussons à la hauteur d'un Napoléon. Qu'on nous donne le pouvoir absolu et pour nous aussi des millions d'animaux bipèdes seront de la chair à canon. Soyons francs, la sensibilité ne nous est pas moins singulière que ridicule. Onieguine était resté plus supportable que beaucoup d'autres, car bien qu'il connût les hommes et les méprisât en masse, il savait faire des exceptions et respecter la sensibilité dans autrui. Il écoutait Lenski en souriant. L'ardente conversation du poète, son esprit encore incertain dans ses jugements, ce qui n'empêchait point son œil d'étinceler, tout lui était nouveau. Il tâchait de retenir sur ses lèvres le mot sceptique qui refroidit. Il se disait « Bon, ce serait une cruauté de ma part de troubler son bonheur éphémère. Son temps viendra bien sans moi. Laissons-le vivre en attendant. Laissons-lui croire à la perfection de ce monde. Pardonnons à la fièvre des jeunes années cette jeune flamme et ce jeune délire. » Tout sujet faisait naître entre eux la discussion et les amenait à réfléchir. Les traces des générations passées, les fruits de la science, le bien et le mal, les préjugés séculaires, l'impénétrable mystère du tombeau, le destin et la vie, tous passaient, tout à retour, devant leur tribunal. Cependant, le poète, s'oubliant dans l'ardeur de ses propres arrêts, déclamait des fragments de poèmes éclos sous le septentrion, et le bienveillant Onéguine, quoiqu'il ait compris fort peu, écoutait le jeune inspiré avec une gravité attentive. Mais c'était surtout l'analyse des passions qui occupait les loisirs de nos deux solitaires. Délivré de leur puissance capricieuse, Onéguine en parlait toutefois avec un soupir d'involontaire compassion. Heureux celui qui, ayant connu leurs agitations, a su enfin s'y soustraire. Mais plus heureux encore, celui qui ne les a nullement connus et qui a su tempérer l'amour par la séparation, la haine par la médisance, qui, échappant au tourment de la jalousie, a su nonchalamment bâiller avec ses amis et sa femme et n'a jamais confié le capital assuré légué par ses ancêtres à la perfidie d'un as de carreau. Lorsque, vaincus enfin, nous nous rallions sous la bannière de la sagesse, lorsque le feu des passions s'est éteint et que nous commençons à trouver risibles leur empire, leurs élans et même leurs échos attardés, humbles, non sans effort, nous aimons entendre parfois la langue fougueuse des passions d'autrui qui nous remue étrangement le cœur. Ainsi un vieil invalide, oublié dans sa chaumière, prête volontiers son oreille et son intérêt au récit des jeunes bravaches. D'ailleurs, la jeunesse ardente ne sait rien cacher. Elle est prête à s'ouvrir également sur sa haine et sur son amour, sur sa tristesse et sur ses joies. Enrôlée parmi les invalides, Onéguine écoutait d'un air sérieux comment, épris de la confession de son propre cœur, le poète s'épanchait devant lui, comment il mettait naïvement à nu sa confiance confiante. Onéguine apprit de la sorte toute l'histoire de son jeune amour. C'était un récit qui n'était riche qu'en sentiments et plus touchant que neuf. Ah, oh, il aimait comme on n'aime plus de notre temps, comme l'âme insensée d'un poète est seule destinée à aimer. Toujours, partout la même image, les mêmes désirs et la même tristesse. Ni l'éloignement qui refroidit, ni les longues années d'absence, ni les heures données aux muses, ni les beautés étrangères, ni les divertissements, ni les sciences, rien n'avait changé son âme. Que de bonheur une chaste flamme avait consumé. À peine adolescent, le cœur encore endormi, il avait été le témoin attendri des jeux enfantins d'Olga. Il avait partagé ses ébats sous l'ombre protectrice des bois, et les pères des deux enfants, amis et voisins, les avaient destinés l'un à l'autre. Sous l'humble toit d'une demeure solitaire, elle avait grandi, pleine d'un charme innocent, comme un muguet caché dans l'herbe épaisse, qui ignore les abeilles et les papillons. C'est elle qui fit don au poète des premiers rêves de la naissante inspiration. Ce fut son image qui lui inspira le premier gémissement de sa lyre. Disant un adieu soudain au jeu de l'enfance, il s'était mis à aimer les bois épais et la solitude et le silence et la nuit et les larmes et les étoiles et la lune. La lune, cette lampe céleste à qui nous avons consacré tant de promenades nocturnes et dans laquelle nous ne voyons plus aujourd'hui qu'un obscur remplaçant de nos fumeux réverbères. Toujours modeste, toujours obéissante, toujours gaie comme le matin, des yeux bleus comme le ciel, un sourire naïf, des tresses de lin, une fine taille, une voix argentine, tout dans Olga. Mais prenez le premier roman venu et vous y trouverez son portrait. Il est charmant. Autrefois, je l'ai beaucoup aimé et maintenant, il m'ennuie à mourir. Et permettez-moi, lecteur, de vous parler de sa sœur aînée. Son nom était Tatiana. C'est pour la première fois que notre caprice s'avise d'introduire ce nom dans les pages timorées d'un roman. Et pourquoi pas? Il est agréable, sonore, mais j'avoue qu'il réveille nécessairement des souvenirs d'antichambre. Hélas, nous autres Russes, nous avons aussi peu de goût dans les noms propres qu'en toute autre chose. La civilisation ne nous sied pas, et tout ce que nous avons su en prendre, c'est l'affectation. Ainsi donc elle s'appelait Tatiana. Ni par les traits mignons, ni par la fraîcheur rosée de sa sœur, elle ne pouvait attirer les regards. Triste, solitaire, sauvage, timide comme une biche des bois, elle semblait dans sa propre famille une jeune fille étrangère. Jamais elle ne sut faire avec ses parents un échange de caresses. Quoique enfant, elle ne voulut jamais jouer et folâtrer dans la foule des autres enfants. Et souvent, elle passait des journées entières, gravement assise à la fenêtre. C'était la mélancolie, sa compagne assidue depuis les jours du berceau, qui embellissait pour elle, par ses rêveries, les longues heures des loisirs de la campagne. Ses doigts délicats ne connaissaient point l'aiguille. Jamais, penchée sur un métier, elle n'avait animé la toile de gracieux dessins. Elle n'aimait point le jeu de la poupée, ce jeu indiscertain du penchant à commander. C'est avec sa poupée obéissante que l'enfant se prépare, en riant aux lois et aux convenances du monde, en lui répétant avec gravité les leçons reçues de sa maman. Jamais Tatiana ne prit dans ses mains une poupée. Jamais elle ne l'entretint des bruits de la ville et des inventions de la mode. Les espiègleries enfantines lui étaient inconnues. Des récits terribles dans l'obscurité des nuits d'hiver charmaient bien plus son cœur. Quand la nourrice rassemblait pour Olga toutes ses petites compagnes sur une vaste prairie, Tatiana ne jouait point au gorelki. Le rire évaporé des plaisirs bruyants ne lui causait que de l'ennui. Elle aimait à devancer sur son balcon la venue de l'aurore, lorsque le cœur silencieux des étoiles s'efface sur l'horizon pâli, que l'extrême lointain s'éclaire faiblement, que le vent messager du matin commence à souffler et que le jour montre peu à peu son visage. En hiver, quand les ombres de la nuit possèdent plus longtemps la moitié de la terre et que l'aurore paresseuse dort plus longtemps, laissant régner au ciel la lune brumeuse, Tatiana se levait aux lumières à son heure accoutumée. Les romans lui avaient plu de bonne heure. Elle s'était éprise des fictions de Richardson et de Rousseau. Son père, bon diable du siècle passé, attardé dans le nôtre, ne voyait aucun péril dans les livres. Ne lisant jamais lui-même, il les tenait pour de vains jouets et ne s'inquiétait nullement de savoir quel volume secret sommeillait jusqu'à l'aube sous l'oreiller de sa fille. Quant à sa femme, elle était elle-même folle de Richardson. Elle aimait cet auteur, non parce qu'elle l'avait lu, non parce qu'elle préférait Grandison à Lovelace, mais autrefois, sa cousine, la princesse Aline de Moscou, lui en avait fait souvent l'éloge. En ce temps-là, son mari était déjà son fiancé, mais elle soupirait en secret pour un autre qui lui plaisait davantage par son esprit et son éloquence. Ce Grandison était un petit maître célèbre, beau joueur et sergent aux gardes. Elle s'efforçait de l'imiter en s'habillant à la dernière mode. Mais un beau jour, sans lui demander son avis, on la conduisit à l'hôtel. Pour la distraire de sa tristesse, son mari bien avisé l'emmena à la campagne, où dans les premiers temps, entourée Dieu sait de qui, elle se débattit, pleura, et fut à la veille de demander le divorce. Puis elle finit par s'occuper du ménage, s'habitua peu à peu à son sort et devint parfaitement heureuse. L'habitude est un don qui nous accorde le ciel pour remplacer le bonheur qu'il ne peut nous donner. L'habitude adoucit sa tristesse. Mais une autre grande découverte qu'elle fit acheva de la consoler. Entre ses affaires et ses loisirs, elle trouva tout à coup le secret de commander despotiquement à son mari, et dès lors tout prit une marche régulière. Elle allait en voiture, surveiller les travaux des champs, salait des champignons pour l'hiver, ordonnait la dépense, rasait les fronts, allait au bain chaque samedi, et quand elle entrait en colère, battait ses servantes, tout cela sans en demander la licence à son mari. Jadis, elle avait écrit avec son sang dans les albums des jeunes filles sensibles. Elle nommait Praskovia Pauline. Elle parlait en traînant les mots. Elle portait un corset très étroit et prononçait l'aine russe en nasillant comme un aine français. Bientôt, tout cessa. Elle jeta là son corset, ses cahiers pleins de vers langoureux, se mit à nommer Akulka, assis devant Célina, et inaugura enfin la robe ouatée avec le bonnet de matrone. Mais son mari l'aimait de tout son cœur. Il ne gênait en rien ses fantaisies, croyait en elle aveuglément, et mangeait et buvait lui-même en robe de chambre. Leur vie se déroulait paisiblement. Le soir, souvent, se rassemblait chez eux la bonne famille des voisins, amis sans cérémonie, pour geindre un peu, pour médire un peu et pour rire un peu. Cependant, le temps passe. On dit à Olga de verser le thé. Puis le souper vient, puis l'heure de dormir. Et les visiteurs quittent la maison. Dans leur vie tranquille, ils conservaient les habitudes du bon vieux temps. Ils mangeaient des blinis à l'époque du gras carême. Deux fois par an, ils se confessaient. Ils aimaient l'escarpolette, les danses en rond des paysans et les chants des jeunes servantes autour du plat d'étain. Au jour de la Trinité, quand le peuple en bâillant écoutait la messe, ils laissaient tomber avec componction deux ou trois larmes sur les fleurs qu'il tenait à la main. Le kvass leur était aussi indispensable que l'air, et à leur table on présentait les plats suivant le rang des convives. Ils vieillirent tous deux ainsi, puis s'ouvrirent enfin devant l'époux les portes du tombeau, et il se couronna d'une nouvelle couronne. Il mourut une heure avant le dîner, pleuré par ses voisins, ses enfants et sa fidèle compagne, et pleurait plus sincèrement que maint autre défunt. Il avait été un bon et simple barine, et là où repose sa cendre, un monument funéraire annonce que l'humble pêcheur Dmitri Larine, esclave de Dieu et lieutenant-colonel, goûte un éternel repos sous cette pierre. Rendu à ses pénates, Vladimir Lenski alla visiter la modeste sépulture de son voisin, et consacra un soupir à sa mémoire. Pour Yorick, dit-il d'un ton profondément attristé. Combien de fois m'a-t-il tenu dans ses bras? Combien de fois dans mon enfance ai-je joué avec sa médaille d'Ossakov? Il me dessinait Olga, il disait souvent « Vivrai-je jusqu'à ce jour ?» Et plein d'une tristesse sincère, Vladimir lui improvisa un madrigal funèbre. Par la même occasion, il composa en pleurant de nouvelles épitaphes pour les tombeaux de son père et de sa mère qui se trouvaient au même endroit. Hélas, en moissons éphémères, les générations que suscite la volonté secrète de la Providence éclosent, mûrissent et tombent. D'autres surgissent aussitôt pour les remplacer. Ainsi notre étourdie génération d'à présent grandit, se presse, s'agite et pousse peu à peu ses pères vers le tombeau. Mais notre temps viendra à son tour et nos fils, à leur venue, nous y conduiront hors du monde. En attendant, ô mes amis, enivrez-vous de cette légère liqueur de la vie. Je comprends sa mince valeur et j'y suis fort peu attaché. J'ai fermé les paupières devant le spectre des illusions. Et pourtant, de lointaines espérances viennent quelquefois me faire battre le cœur. J'entrevois qu'il me serait triste de quitter cette terre sans y laisser une trace qui ne fût pas imperceptible. Je n'écris pas pour les louanges, mais il me semble avoir le désir qu'un son, ne fût-ce qu'un son, rappela mon souvenir comme un ami fidèle. Peut-être sera-t-il touché le cœur de quelqu'un. Peut-être une de mes strophes, sauvée par le sort, surnagera-t-elle sur le léthé. Peut-être, espoir flatteur, quelque ignorant des âges futurs montrera-t-il du doigt mon portrait en disant « Oh, celui-là était un poète !» Quoi qu'il advienne, reçois dès cette heure mes remerciements, ô toi, amant des muses paisibles, dont la mémoire conservera mes œuvres fugitives et dont la main bienveillante donnera une amicale caresse aux lauriers du vieillard.